Contraire, je malmène mon corps, je le traite comme un esclave, de peur qu'après avoir fait la proclamation pour les autres, je ne sois moi-même disqualifié. Ou alors, dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, il dit ceci, « Ce n'est pas que j'ai déjà obtenu tout cela, ni que je sois déjà parvenu à l'accomplissement, mais je le poursuis, tâchant de le saisir, pour autant que moi-même j'ai été saisi par Jésus-Christ. En ce qui me concerne, mes frères, je n'estime pas moi-même l'avoir déjà saisi. Mais une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et puis un dernier exemple, toujours l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, dans sa deuxième lettre à Timothée. « Quant à moi, en effet, je suis déjà répandu en libation et le temps de mon départ est arrivé. J'ai mené le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé sa manifestation. » En effet, la vie chrétienne est comparable à une course. Une course avec un départ et une arrivée, une course avec une discipline nécessaire, une course avec un prix à remporter. Et la question qui s'impose ou qui se pose à nous ce matin est celle-ci, comment bien courir la course de la foi ? Comment bien courir la course de la foi ? Et pour répondre à cette question, parmi tous les textes du Nouveau Testament que j'aurais pu utiliser, j'ai choisi celui bien connu de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, les versets 1 et 2, que je vous propose de lire maintenant et de méditer ensuite. Je lis dans la traduction de la Nouvelle Bible Second. Hébreux 12, versets 1 à 2. « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix, méprisant la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Être chrétien, c'est suivre le Christ. Suivre le Christ, c'est la course de la foi. Une course dont parle notre texte en nous donnant des indications importantes pour nous permettre de bien courir. Et le premier élément que je retire de ce texte, c'est que Dieu lui-même nous propose cette course. Et c'est lui qui en détermine les contours. Verset 1, « Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » L'épreuve qui nous est proposée. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que ce n'est pas nous, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi qui déterminons la course en elle-même. Cela veut dire que ce n'est pas nous, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi qui fixons les règles, les contours, les conditions de cette course. Cela veut dire que ce n'est pas nous, ni vous, ni moi qui décidons ce qui est acceptable ou pas, ce qui est bon ou mauvais dans cette course. La vie chrétienne, à l'inverse de beaucoup d'autres choses, n'est pas à la carte. Chacun ne fait pas son menu, ou plutôt son itinéraire, en fonction de ses desiderata. Il ne s'agit pas de prendre ce qui m'arrange et de laisser de côté ce qui ne me plaît pas, ce qui me dérange, ce que je trouve contraignant. En fait, à la conversion, Dieu ne nous a pas donné une paire de ciseaux qui nous permettrait de découper de la Bible tous les passages qui ne nous conviendraient pas. Il faut noter ici que c'est pourtant ce que beaucoup font, en supprimant, par exemple, de la Bible tout ce qui concerne le péché, pour ne garder que ce qui concerne l'amour. Chers amis, si Dieu respecte nos choix dans bien des domaines, c'est néanmoins lui qui fixe les règles, qui fixe les contours, qui fixe les conditions de la vie chrétienne, de la course de la foi, et il le fait dans sa parole. Il est souverain sur toute chose, et il l'est bien évidemment aussi sur la course qu'il nous propose. Ainsi, un des défis majeurs pour le coureur, pour le chrétien tout au long de la course, sera de s'assurer qu'il court bien selon la volonté de Dieu, qu'il court bien selon la volonté de celui qui l'a appelé à courir par la foi. Et ainsi, il pourra dire à la fin de sa course, ce que nous avons lu, ces belles paroles de l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, « J'ai mené le beau combat, j'ai achevé la course ». J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Oui, la couronne de justice est réservée à celles et ceux qui achèvent la course que Dieu nous propose, celle-là et aucune autre. La deuxième chose que je retire de notre texte au sujet de la course de la foi, c'est que pour bien courir, il faut courir léger. Il faut se débarrasser de tout ce qui pourrait nous gêner dans cette course, de tout ce qui pourrait nous encombrer. Et notre passage précise en particulier le péché. Verset 1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement. » Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Est-ce que vous avez déjà essayé de courir en étant chargé, très chargé? Le faire, c'est la garantie de ne pas aller bien loin. Quand j'ai fait mon service militaire pendant mes classes, il y avait dans ma section un boxeur professionnel ou semi-professionnel, je ne me souviens plus tout à fait. Par contre, je me souviens qu'il imposait le respect. Mais par contre, lui, délibérément et régulièrement, il manquait de respect à toutes sortes de monde et en particulier envers les gradés. Et le résultat des courses, c'est que toute la section... Nous avions le privilège d'être régulièrement punis avec lui et à cause de lui. Et je me souviens en particulier d'une fois où, au monter des couleurs le matin, à l'appel, il n'était pas là. Il était encore au lit et le résultat, c'est que nous avons fait notre paquetage et puis nous avons dû courir avec le paquetage sur le dos et avec le fusil à bout de bras, comme ça, levé. Et autant vous dire que ça a été très, très rapidement l'hécatombe. Et que même les meilleurs n'ont pas tenu bien longtemps. Ça nous a valu toutes sortes de réprimandes, de pompes et autres réjouissances, mais ce n'est pas notre propos ce matin. C'est du bon sens. Pour courir longtemps et pour courir loin, il faut se débarrasser, il faut jeter tout ce qui nous encombre, Tout ce qui pèse lourd, tout ce qui va nous entraver, tout ce qui n'est pas nécessaire à notre course, tout ce qui ajoute du poids inutile. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de tout fardeau, c'est-à-dire de tout ce qui vient faire obstacle à la course. Bien évidemment, il y a le péché, et il en parle. Mais le péché n'est pas la seule chose qui peut nous alourdir. Il y a de bonnes choses dans notre vie qui produisent le même effet. En effet, si mes priorités, par exemple, ne sont pas dans le bon ordre, je peux passer beaucoup de temps à faire de bonnes choses, des choses qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais qui me détournent de ma course, qui m'alourdissent et qui finissent par m'arrêter sur le bord de la piste. Ainsi, nous devons veiller sans cesse à nos priorités, à la gestion de notre temps, à faire nôtre la prière du psalmiste « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. » Si de bonnes choses peuvent entraver notre course, le danger principal, cependant, c'est le péché. Le péché qui nous alourdit, le péché qui nous assoupit, le péché qui nous freine, puis nous arrête, qui nous détourne de la volonté de Dieu, qui va affecter notre communion avec lui et donc notre course. Parce que oui, quand je pêche, et en particulier quand je le fais délibérément, cela affecte ma relation à Dieu, cela affecte ma foi et donc ma course. Et le résultat, c'est que je cours avec un sac à dos chargé sur le dos. Et c'est ainsi que le péché que nous tolérons dans notre vie nous empêche de bien courir. Alors, quelle est la solution ? Celle que le texte nous propose est radicale. Il faut rejeter le péché, dit l'auteur des Hébreux. Rejeter le péché dans notre vie, d'autant plus, dit-il, que celui-ci nous enlace si facilement. Cela veut dire que nous n'avons aucun effort à faire pour que le péché vienne nous tenter. Le péché n'est pas seulement en dehors de nous, mais il est aussi en nous. Notre nature est pécheresse. Et il nous est aussi naturel de pécher que de respirer. C'est pourquoi il faut une vigilance de tous les instants. C'est pourquoi le rejet du péché est la seule solution efficace. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné son esprit, pour que nous puissions marcher par l'esprit et non pas par la chair, pour que nous puissions rester en communion avec lui tout au long de la course, et pour que nous puissions rejeter le péché. Alors oui, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enlace si facilement, et ainsi nous pourrons courir, nous pourrons bien courir l'épreuve qui nous est proposée. Le troisième élément que je retire de notre texte, c'est l'encouragement de ceux qui nous ont précédés. Verset 1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. » Nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. L'image sous-entendue ici est celle d'une arène dans laquelle a lieu la course de la foi. Et il se trouve que sur les gradins de cette arène, il y a des spectateurs. Ce sont les héros du passé de la foi, les héros de la foi du passé, dont l'auteur de cette épître aux Hébreux vient de parler en longueur au chapitre 11, dans le chapitre qui précède. Oui, ces héros de la foi qui ont couru avec persévérance, qui ont rejeté le péché, qui ont gardé la foi, qui ont achevé la course et qui sont les témoins de la fidélité de Dieu qui leur a permis de finir la course. Dieu a été fidèle envers chacun d'eux. Il les a gardés dans la foi, chacun d'eux. Même ceux qui sont morts à cause de leur foi, même ceux qui n'ont pas obtenu ici-bas les choses promises, qu'ils ont vues et saluées de loin, dit l'auteur. Ils ont tous, chacun, cependant, terminé la course de la foi par la grâce et la fidélité de Dieu. Chers amis, ce que l'auteur de ce texte veut nous amener à comprendre ici, c'est que nous ne sommes pas seuls dans cette course. Bien évidemment, il y a tous nos frères et sœurs du moment avec qui nous courons. Mais il y en a encore beaucoup plus qui nous ont précédés et que Dieu a fait vaincre par la foi. C'est pourquoi nous pouvons trouver du réconfort et de l'encouragement dans cette pensée de tous ces témoins qui nous ont précédés, de tous ces témoins que Dieu a gardés, de tous ces témoins qui nous offrent l'exemple vibrant de leur foi en celui qui est toujours fidèle. Oui, ces témoins, littéralement dans le texte, c'est martyrs. Mais les martyrs, ce sont des témoins. Ce sont une source, ils sont une source d'inspiration pour nous. Ils ont vaincu par la foi. Et ils l'ont fait parce que Dieu est fidèle. Et c'est parce que Dieu est fidèle que nous pouvons avoir la garantie que nous vaincrons par la foi et que nous pouvons courir et achever cette course de la foi. Oui, si nous sommes engagés dans cette course proposée par Dieu, alors nous courons dans un stade où s'élèvent des hurrahs, des applaudissements, des encouragements de toutes celles et ceux qui nous ont précédés. Puissions-nous trouver dans cette pensée l'encouragement de continuer la course, parce que Dieu qui les a gardés nous gardera aussi. Sa puissance, sa grâce et sa fidélité ne failliront pas. Le quatrième et avant-dernier élément que je retire de notre passage au sujet de la course de la foi, c'est qu'elle nécessite de la persévérance. L'auteur de l'Épître aux Hébreux exhorte ses lecteurs à courir avec persévérance l'épreuve qui leur est proposée. Et en effet, on ne peut pas courir la course de la foi sans persévérance, sans endurance. Il y a souvent au commencement de la vie chrétienne un élan qui nous fait avancer parfois presque tout seul, une espèce d'euphorie. Nous sommes comme portés, comme sur un petit nuage. Le premier amour est souvent un amour débordant, plein de zèle, plein d'entrain. Et il n'est pas rare que le jeune chrétien se fasse tout un tas d'illusions en fonction de ce qu'il est en train de vivre, sur ce que sera la suite de la course, sur ce qu'elle est ou sur ce qu'elle n'est pas. Mais après l'euphorie du départ, il y a le retour sur terre. Il y a inévitablement la routine qui s'installe, et puis inévitablement la confrontation avec tout ce qui vient questionner notre foi. Et il y a un moment où le premier élan qui nous a portés pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ce premier élan n'est plus suffisant pour nous porter. Et il ne nous porte plus. Et c'est là qu'il nous faut commencer à persévérer, au risque de ralentir et de s'arrêter. Dans son épître aux Galates, au chapitre 5, verset 7, l'apôtre Paul interpelle ses lecteurs à ce sujet-là. Il dit « Vous couriez bien ». Qui vous a arrêté ? Mais vous couriez tellement bien. Vous êtes arrêté, mais pourquoi ? Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité ? La réalité, c'est que la course de la foi demande de la persévérance, au risque de se retrouver en panne sur le bord de la piste. Alors, c'est quoi la persévérance ? J'aurais pu me lancer dans toute une définition, mais j'ai voulu simplifier au maximum. Et je dirais que la persévérance, c'est simplement continuer à avancer, quelles que soient les circonstances. C'est ça la persévérance. Avancer, quelles que soient les circonstances, que le soleil brille dans ma vie ou que la tempête fasse rage, avancer. Avancer quand nous voyons les bénédictions de Dieu dans notre vie, mais avancer aussi quand nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Quand Dieu semble silencieux, absent, avancez quand même. Persévérer, c'est continuer quand Dieu dit oui, mais aussi quand Dieu dit non. C'est continuer quand Dieu ouvre une porte et quand Dieu ferme une porte. C'est continuer quand Dieu dit « Ma grâce te suffit » et qu'il nous faut avancer avec une écharde dans la chair. C'est continuer quand nous avons envie d'abandonner, quand nous avons envie de baisser les bras. C'est ça la persévérance. C'est continuer malgré tout. C'est continuer parce que ce qui nous fait avancer, ce qui devrait nous faire avancer, c'est la foi et non pas la vue. C'est continuer parce que, au fond de nous, nous savons en qui nous avons cru. C'est continuer parce que nous avons été saisis par l'amour du Christ. C'est continuer parce que nous avons les promesses de Dieu. Peut-être que nous ne ferons que les saluer de loin, certaines, ici-bas. Mais nous avons les promesses de Dieu. Promesses que rien ne nous séparera de son amour. Promesses qu'il rendra parfaite l'œuvre qu'il a commencée en chacun de ses enfants. Il la rendra parfaite au jour de Jésus-Christ. Promesse que c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Promesse de la présence et du secours de son esprit. Promesse qu'il peut, par la puissance qui est en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Oui, il faut de la persévérance pour courir la course de la vie chrétienne, qui s'apparente, il est vrai, à un marathon plutôt qu'à un sprint. Il est bien d'en prendre rapidement conscience. Persévérance aussi parce que nous vivons dans un monde déchu, c'est-à-dire un monde qui sans cesse cherche à nous attirer loin de Dieu. Persévérance parce que notre propre nature pécheresse, elle aussi, sans cesse, nous tire dans la direction opposée. Persévérance parce que le péché nous enlace si facilement. Chers amis, où en êtes-vous ce matin dans votre course de la foi ? Êtes-vous dans la persévérance ? Êtes-vous encouragé ou découragé ? Peut-être avez-vous envie de baisser les bras. Ce sont des choses qui arrivent. Je crois que nous passons tous par là à un moment ou à un autre. Ce qu'il vous faut, ce qu'il nous faut quand nous sommes dans cette situation, c'est de la persévérance et rien d'autre. C'est de la persévérance. De la persévérance que le Seigneur nous donnera si nous la lui demandons. Pourquoi pas le faire maintenant, peut-être, si vous en ressentez le besoin. Oui, la course de la foi se court avec persévérance, et cela demande des efforts. Et si nous avons les encouragements de ceux qui nous ont précédés, nous avons aussi l'exemple parfait de celui sur qui nous sommes appelés à fixer nos regards pendant la course, Jésus-Christ. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus. Les yeux fixés sur Jésus. C'est notre cinquième et dernier point. En fait, la course de la foi, c'est une course orientée. Parce que nous ne courons pas au hasard, nous ne courons pas à l'aventure, nous ne courons pas au petit bonheur, la chance. Nous courons vers un but, et ce but, c'est Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans le texte que j'ai lu au commencement, dans sa lettre aux Philippiens. Enfin, il faudrait prendre tout le chapitre. Mais je relis ces quelques versets. « Ce n'est pas que j'ai déjà obtenu tout cela, ni que je sois déjà parvenu à l'accomplissement, mais je le poursuis, tâchant de le saisir, le Christ, pour autant que moi-même j'ai été saisi par Jésus-Christ. En ce qui me concerne, mes frères, je n'estime pas moi-même l'avoir déjà saisi, mais une seule chose compte. » Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. La course de la vie chrétienne est une course orientée. Nous savons vers quoi nous courons, ou plus précisément, nous savons vers qui nous courons. Quelques versets avant les versets que je viens de lire, l'apôtre a écrit qu'il a décidé de tout perdre, dit-il, afin de gagner Christ. Tout perdre pour gagner Christ et pour être trouvé en lui. Ce sont les versets 8 et 9. Pour l'apôtre, le prix de la course, la victoire, la récompense de la course, c'est Jésus-Christ. C'est le Christ lui-même. Alors oui, dans la course de la foi, nous courons en fixant les yeux sur Jésus. Premièrement, parce qu'il est le but, l'objectif, le but de notre course. C'est lui la ligne d'arrivée. C'est lui le but de notre foi. C'est lui notre récompense. Et c'est lui que nous voulons saisir. Oui, nous courons la course de la foi vers celui qui est notre Sauveur et notre Seigneur, vers celui qui nous a donné sa vie, vers celui qui est allé nous préparer une place et qui reviendra nous chercher pour que nous soyons avec lui. La course qui nous est proposée doit se courir en fixant les yeux sur Jésus, deuxièmement parce qu'il est le pionnier de la foi. Littéralement, le mot utilisé veut dire qu'il est l'auteur de la foi. La foi par laquelle nous courons, elle ne vient pas de moi, elle ne vient pas de vous, elle vient de lui. C'est lui qui l'a créée et c'est lui qui nous l'a donnée. On peut penser à ce texte des Éphésiens qui parle du don de la foi. C'est un don de Dieu, la foi est un don de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il est celui qui peut nous aider le mieux à vivre par la foi, à courir par la foi, puisqu'il nous l'a donné, puisqu'il l'a créé. Mais pour cela, il faut regarder, il faut fixer nos regards sur lui. La course qui nous est proposée doit se courir en fixant les yeux sur Jésus. Troisièmement, parce qu'il est celui qui la porte à son accomplissement, à sa perfection, à son but. En d'autres mots, il est celui qui peut nous rendre vainqueurs. Il est celui qui peut nous amener jusqu'au bout de la course, où nous allons achever la course en gardant la foi, comme il le dit à Timothée. Il est celui qui peut nous amener au bout de la course de la foi. En regardant à Jésus, nous regardons à celui qui seul peut nous rendre plus que vainqueurs. Et puis la course qui nous est proposée doit se courir en fixant les yeux sur Jésus, quatrièmement parce qu'il est notre parfait modèle. Il est celui qui a vaincu. Il est celui qui a achevé la course sans l'aide de personne, si ce n'est celle de son Père, et il l'a fait en endurant la croix et en méprisant la honte, dit le texte. Et c'est pourquoi fixer les yeux sur Jésus n'est pas en vain, car c'est fixer les yeux sur celui qui a remporté la course. Chers amis, Jésus ne nous engage pas dans une course qu'il n'a pas lui-même courue et achevée. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Cette course de la foi, il l'a courue avant nous. Et c'est la raison pour laquelle nous trouvons en Jésus le parfait modèle de persévérance et d'endurance. Une persévérance et une endurance après quoi Jésus s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et pour nous donc, fixer les yeux sur Jésus, c'est l'assurance de notre propre victoire et c'est l'assurance de notre propre repos dans la gloire de Dieu. J'aimerais terminer avec une remarque toute simple, mais peut-être c'est ce que vous retiendrez ou une des choses que vous retiendrez. Simplement pour dire qu'on ne peut pas fixer deux choses à la fois. On ne peut pas fixer deux choses à la fois. Je peux regarder deux choses en alternance, mais je ne peux pas fixer deux choses à la fois. Ça veut dire que c'est une demande d'exclusivité qui nous est donnée dans ce texte. C'est sur Jésus et sur lui seul que nous devons fixer notre regard. Les témoins de la foi nous encouragent, les témoins de la foi nous inspirent, mais c'est à Jésus que nous regardons, et c'est sur lui que nous fixons notre regard. Attention donc à toutes ces choses qui demandent notre attention, qui attirent notre regard, qui le détournent du Christ et qui font que nous ne fixons plus nos yeux sur Jésus-Christ. Ces choses-là font partie des choses qui doivent être rejetées pour bien courir la course qui nous est proposée, pour bien fixer les yeux sur Jésus et achever la course. Amen. Je vous invite à prendre quelques instants de silence.